Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant TGS Spring Break avec Dream. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. On continue, comme promis, à vous dérouler les interviews que nous avons faites au TGS Spring Break ce 13 et 14 mai. Et oui, déjà une semaine, mais on ne s'en lasse pas et de très bons souvenirs de ce TGS. Alors, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde sur le stand Hype Media. On a même fait des jeux incroyables, très originaux. D'ailleurs, on a vécu des parties de dessins endiablés, je ne dirais que ça. Et aussi des moments où il fallait réfléchir énormément à des mots tout en ne donnant pas les lettres. Et sur ce stand, il y avait des dessinateurs. On vous a parlé déjà de Philippe Briones, mais aussi une petite Joemi qui est illustratrice et dessinatrice depuis 10 ans. Donc voilà, on a fait sa rencontre. Elle est passionnée par le Japon. Elle en a fait d'ailleurs un blog, BD Nani Nani, et elle va nous en parler. Donc je vous invite à découvrir son interview.
Bonjour Sophie.
Bonjour Vanessa.
Alias Dreamy.
Dreamy.
D'où ça vient, Dreamy?
Waouh, c'est un vieux pseudo qui date vraiment des débuts d'Internet, quand il a fallu se créer un petit surnom pour poster des commentaires, des dessins, etc. Et je ne sais pas d'où ça vient, les surnoms en général. Des fois, ça vient de nulle part. On se dit qu'est-ce que on pourrait prendre qui n'est pas déjà pris, surtout. Et Dream, bien sûr, le rêve. Voilà, c'est quelque chose, l'univers onirique, c'est quelque chose que j'aime bien, faire rêver. Et puis, avec le i, puis voilà, ça sonne bien, c'est resté depuis 20 ans. Et je pensais pas du tout un jour signer des BD avec ce nom, mais voilà, c'est un vieux surnom.
Alors j'ai lu que tu avais appris à dessiner toute seule.
Oui.
Notamment avec des dessins que tu reproduisais de Sailor Moon
et
Ranma 1/2.
Exactement.
Pourquoi ces deux dessins t'ont plu, deux univers?
Alors moi je suis génération Club Dorothée, donc c'est ce qui passait à l'époque avec Dragon Ball. Moi je regardais tout, je regardais tout, mais je regardais de tout, mais c'est vrai que un jour, je regarde donc la télé et je vois Sailor Moon et ça m'interpelle. Je sais pas, ça ressemble à rien d'autre que j'ai vu avant, des dessins animés occidentaux quoi. Oui. Ça n'avait rien à voir. Et en plus, je suis tombée sur le premier épisode, ce qui est très rare. À chaque fois, on est d'accord, on tombe toujours un peu en cours de route. Et là, c'était le tout premier épisode. Donc, en plus, c'est la genèse de l'histoire et tout. Et
avec Luna, elle rencontre le chat.
Et puis, c'est un peu, je sais pas si ça rêve de petite fille, mais de se transformer. Enfin, les transformations, elles sont épiques.
Elles sont magnifiques.
Voilà. Donc, en plus, c'est une collégienne. Donc, alors, j'étais pas encore collégienne, mais c'était pas si loin. Dans ma vie, c'était quelques années plus tard, donc on s'identifie quand même bien. Et on se transforme, on devient une justicière avec un chat. On a des pouvoirs avec la lune, un spectre. Enfin,
petit à petit, elle grandit aussi avec ses pouvoirs, elle apprend à se connaître.
Et Bunny, l'héroïne de Sailor Moon, elle est maladroite. Elle est maladroite, elle est super attachante.
Oui.
Elle mange des bonbons. Elle est en retard, enfin, on s'identifie très facilement à elle. Et
elle aime pas faire ses devoirs.
Voilà, donc bon, on est Bunny quoi.
C'est ça.
Hashtag je suis Bunny. Et puis ce côté, se transformer comme ça, le secret on sait pas, le jour on est juste une collégienne banale quoi, mais en fait la nuit on sauve des vies avec un chat, l'homme masqué, tout ça.
Tu le sais, de masqué.
Mais oui, donc tout ça m'a plu instantanément, et puis graphiquement ça ressemblait à rien et j'ai eu envie de le reproduire en fait. Et je me souviens plus trop si je dessinais beaucoup à l'époque, enfin pas plus que tous les enfants, je pense que c'est vraiment une activité qu'on fait tous quand on est petit. Mais ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, je veux le reproduire. Et donc, j'ai enregistré les épisodes sur des cassettes. Et bah oui.
Les fameuses cassettes vidéo.
Les cassettes. J'en avais une tonne. J'avais tous les épisodes. Je les regardais, je les connaissais par cœur. Je doublais par-dessus, tellement je les connaissais par cœur. Et je faisais pause et puis je redessinais, je recopiais. Tout simplement.
Ah ouais, tu faisais ouais, carrément
je collais,
sur l'écran. Et
je collais ma feuille sur ma télé cathodique et je décalquais. Et ça commençait comme ça. J'ai fait ça. Alors, j'ai tué un magnétoscope, sans doute, comme
ah oui,
ça. Mais... Et puis ensuite, il y a eu les mangas. Parce que ça, c'est dessin animé.
Oui, ouais, tout à fait.
Et les mangas, c'était pas tout de suite. C'était
non, c'est arrivé après. Parce que nous, on a vu les dessins animés
d'abord.
Grâce au Club Dorothée.
Ouais. Et donc, les mangas, quand c'est sorti, je me suis dit, ah, mais c'est la même chose, mais en papier. Et donc, j'allais à La Défense à l'époque, à Paris. J'avais des petits mangas comme ça sur une petite étagère, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de rayons. Hein.
Non.
C'est, voilà, des mangas dans une étagère avec un petit tag manga.
Ouais, c'était tout petit. Hein.
C'était minuscule, c'était au milieu de nulle part. J'étais super contente d'acheter mes Sailor Moon en manga. Et c'est là aussi que j'ai découvert le décalage. Je me suis dit, mais c'est pas exactement comme le dessin animé.
Non.
Le dessin, il est un peu différent,
ils
ça raconte pas la
même
chose.
Ils n'ont pas les mêmes prénoms.
Oui,
Izagi.
Bah, oui, exactement, ils ont les noms japonais. Et ça, aujourd'hui, c'est normal hein, pour nous. C'est
oui.
Voilà, c'est on le sait parce qu'on a enfin les jeunes grandissent avec ça, ils font la distinction, mais à l'époque, c'est vrai que c'est pas que j'étais déçue, mais j'étais étonnée de me dire qu'il y ait autant de différence entre le dessin animé et un manga où on peut s'attendre à ce que ce soit un copier-coller, mais pas du tout.
Carrément pas.
Alors ça peut arriver, mais là pour le coup,
ah non,
pas
là,
du
c'est
tout.
Complètement
pas du
différent.
Tout et c'est pas étonnant parce que quand on regarde le style de Naoko Takeuchi, c'est très fin, c'est très élégant, mais c'est très shoujo quoi. Et ça à faire en dessin animé, c'est pas possible. C'est trop de travail quoi. Enfin, surtout à l'époque, c'est très industrialisé, il faut aller vite, il faut produire. Il y a plein de raccourcis qu'on fait au niveau de l'animation, c'est pas toujours très beau, voilà. Quoique quand on est petit, on s'en fout, hein. On regarde quand même, hein. On fait pas attention à ça. Mais c'est vrai qu'en fait, si on réfléchit bien, on n'aurait pas pu reproduire ce style tel quel à l'écran, quoi. C'est trop difficile. Donc il faut bien réinterpréter, c'est normal, quoi. Voilà.
Et cet univers donc japonais,
ouais.
T'as pris au trip.
Ouais.
Et tu es partie deux fois au Japon.
Oh, ouais.
Et t'es restée longtemps quand même.
Ouais, un peu plus d'ailleurs, mais je suis restée deux fois un an, en ce cas. Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu grandis dans ce milieu, t'es entourée de dessins animés, mais de jeux vidéo aussi. Hein. Ben, ça fait rêver, hein, t'en reviens sur le rêve. Mais on se dit, ah, j'ai envie de voir en vrai ces décors et ces rituels. La nourriture, parce que quand on regarde les mangas, il y a tous ces codes-là, en fait, qui deviennent une espèce de monde parallèle. Mmh. Et ça reste cohérent, tout ça, et c'est normal, en fait, parce que c'est calqué sur leur réalité à eux. Mais quand on connaît pas ce monde-là, et qu'on n'a jamais été au Japon, hein, a priori, à cet âge-là, et ben, ça fait rêver, et puis on a envie de le voir en vrai, un petit peu comme quand on regarde des films, et puis ça nous donne envie d'aller à New York, ou voir par nos propres yeux en fait. Et donc bah, je me suis dit un jour ouais, j'ai envie d'aller au Japon. Alors j'en ai pas fait forcément un objectif absolu, comme j'en vois là, très jeunes, ils savent ce qu'ils veulent, ils mettent de côté, ils apprennent le japonais, je suis waouh. Moi je me suis dit bah, un jour j'irai, et puis ce serait bien, mais on verra à ce moment là donc j'ai fait mes études en fait, j'ai fait une école d'art à Paris avec une spécialisation en animation. Et en fait, ça m'est un peu tombé dessus. C'est-à-dire que j'avais toujours envie d'y aller, mais j'avais pas de projet lié au Japon en particulier. Et comme à ce moment-là, en France, quand je suis sortie d'études, c'était un petit peu compliqué de trouver du travail. Je me suis dit, en fait, je suis jeune, je suis liée à rien du tout. Je suis pas engagée ni géographiquement ni professionnellement à quoi que ce soit, donc est-ce que ce serait pas le moment de voyager? Et donc alors c'est pas forcément, c'est facile dit comme ça, hein, ça c'est sûr que c'est un certain coût, faut se préparer.
Ah bah oui,
donc je suis pas partie toute seule, j'avais d'autres amis qui étaient un petit peu dans la même configuration que moi, donc on s'est mis à prendre des cours de japonais ensemble, on a mis quand même un an à se préparer. On nous a parlé d'un visa qui s'appelle vacances-travail, qui existe toujours, hein, qui est donc une espèce de partenariat qui se fait entre certains pays. Donc, par exemple, la France, ça va être avec le Japon, mais ça va être avec aussi la Corée, le Canada, l'Australie. Il y a plein de pays éligibles à ce programme, hein, renseignez-vous. Il y a plusieurs critères, notamment l'âge. Il y a un budget minimum à avoir. Il faut arriver avec un plan. Quand tu vas à l'ambassade, il faut un dossier. Donc, ça ne se fait pas comme ça non plus. Ça s'étudie, ça prend un certain temps. C'est assez sérieux, ils ne vont pas nous envoyer comme ça dans la nature, donc il faut arriver avec un projet, dire voilà, j'ai telles études, j'ai envie de travailler, bah, par exemple dans mon cas, je dessine, le Japon, bah, c'est le pays de l'animation par exemple, ça tombait bien, donc voilà, j'ai repéré telle boîte avec qui bosser, alors ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais on montre quand même qu'on s'est renseigné. On a un petit peu d'argent de côté quand même. Voilà, et si tout ça, ça passe, ben, on a un visa d'un an qui nous permet de vivre sur place, au-delà des 3 mois classiques. Mais on peut aussi étudier et travailler. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie un an à Tokyo avec des amis.
Étudier le japonais.
Alors ça, c'est plus tard. C'est la deuxième année, notamment. Voilà, moi, je suis partie, j'avais quelques notions. Je suis partie à Tokyo avec mes amis. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a le monde de la BD qui m'est tombé dessus aussi. Et pourquoi choisir ? Donc, j'ai accepté. J'ai fait ma première BD en 2012, qui s'appelle Nathalie Cookbook.
Oui.
Voilà, c'était des recettes de cuisine.
Avec Nathalie Nguyen.
Exactement, qui avait fait Masterchef saison 2, qui était une amie à moi.
Et, incroyable.
Oui. oui, on s'est rencontrés sur un forum Harry Potter. Où moi je faisais des fan art, elle faisait des fanfictions, donc elle écrivait des textes et moi des dessins. Et on s'est rencontrés comme ça. Et on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés dans la vraie vie par un autre biais complètement qui n'a rien à voir. Donc c'est marrant des fois. Et donc je suis partie avec cette première BD dans ma valise et je l'ai faite là-bas. Wow. Voilà, j'ai essayé de concilier à la fois le fait d'être sur place. Alors, j'avais pas forcément prévu de travailler, je savais pas trop parce que bah du coup j'avais cette BD à faire qui est un temps plein. Enfin, je veux dire la BD, les gens se rendent pas forcément compte, mais c'est un vrai travail.
C'est un vrai travail.
Ça peut être très chronophage parce que enfin on compte pas nos heures hein, quand on est là-dessus. Moi, je suis un peu perfectionniste, donc voilà, c'est encore pire. Mais première BD en plus, donc j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais j'ai quand même profité de Tokyo. J'ai essayé de faire des week-ends par-ci par-là. Il y a une grosse communauté française sur place, donc c'est beaucoup d'entraide, heureusement. À ce moment-là, j'ai commencé un blog BD aussi qui s'appelle Nani Nani. En parallèle, où je racontais aussi un peu toutes mes démarches au départ administratives pour partir, et ensuite je racontais un peu mes histoires. Puis j'avoue, j'ai pas réussi à suivre le rythme parce que ben, j'avais quand même envie de profiter de la vie sur place. J'avais la BD et une deadline surtout à respecter, donc je pouvais plus tout faire. Mais c'est ça qui m'a lancée aussi dans ce milieu finalement, à la fois le blog et ensuite la BD. Au bout d'un an, je suis rentrée en France. J'ai pris des cours, donc j'ai un peu fait les choses à l'envers. Mais en fait, ça m'a tellement frustrée sur place d'être passée à côté de certaines choses, de ne pas pouvoir m'exprimer, de ne pas comprendre ce qui m'entourait, que je suis rentrée et je me suis dit, c'est pas grave. Ça m'a donné envie quand même de m'y mettre. Et donc, j'ai pris des cours de japonais. Et il se trouve qu'il y avait un programme d'échange dans cette école. Ouais. Et c'était pas prévu, hein. Je l'ai découvert après coup. Et donc, ça a un peu germé dans ma tête. Je pensais pas y retourner, mais je me suis dit, tiens, ils ont un programme qui donne un visa étudiant. Donc, c'est en partenariat avec une autre école sur place. Et comme je suis assez sérieuse à ce moment-là pour apprendre le japonais, je me suis dit, mais ça me paraît tout à fait envisageable, en fait, de repartir, d'étudier la langue de façon immersive, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, hein, pour progresser. C'est d'être sur place. Et donc, voilà, ça a repris un an de préparatifs, de paperasse aussi, de mettre de côté. Et je suis repartie un an. Et cette fois, je suis allée à Nara, qui est une ancienne capitale. Donc, ce n'est pas forcément la ville vers laquelle on va aller aujourd'hui, parce que ce n'est pas la plus connue. Mais c'est une grande ville qui est traditionnelle, qui est connue notamment pour ses daims qui se promènent en liberté. Et ça, c'est très chouette.
C'est incroyable.
C'est vraiment chouette d'avoir des daims qui traversent la route.
C'est peut-être plus les voitures qui s'arrêtent.
Ah bah oui, mais parce que le daim, en en tout cas dans cette ville, c'est un messager de Dieu, tu vois. C'est voilà, donc attention, on va pas les écraser, sûrement pas. On les respecte à fond, hein. Voilà. Donc il y a un parc, bah, le parc de Nara, qui est gigantesque, et il y a je sais pas combien de daims qui se promènent à l'intérieur, quoi. Voilà. Et puis tu peux acheter des gâteaux qui s'appellent des sembei, c'est des petits gâteaux comme ça secs. Tout, t'as des petits papy mamies qui sont là avec leur petit stand de sembei, et puis tu leur achètes un paquet de, je sais pas, de 10 ou 20, et puis tu les distribues comme ça, un peu comme si tu donnais à manger aux pigeons, mais du coup, c'est l'attraction à faire, quoi, quand t'es là-bas. Et puis voilà, c'est super chouette, quoi, c'est toute cette nature, avoir des animaux en liberté, ça te calme, c'est un bon week-end à faire. Et donc, moi, j'étais là-bas, et j'ai étudié dans une université qui acceptait qu'il y avait un programme pour étrangers, comme ça, on n'était pas beaucoup. Mais je me suis retrouvée comme ça avec plein de nationalités. Et puis on avait nos propres classes. On apprenait le japonais. C'était assez intense. Et puis au bout d'un an, en fait, je suis rentrée. Parce que j'adore le Japon. Mais y vivre et y aller en vacances, ça n'a rien à voir.
C'est pas la même chose.
Et c'est pas que le Japon, je dirais, ça s'applique un peu partout. Hein. Mais si on n'y a pas été, on ne se rend pas forcément compte. Mais franchement, pour avoir échangé énormément sur ce sujet avec plein de gens, notamment des expatriés, des gens qui vivent sur place, qui en sont revenus, etc., tout le monde, on est un peu d'accord là-dessus pour dire que le Japon, c'est génial. C'est vraiment la meilleure destination de vacances. Mais y vivre, c'est pas pareil. Ouais. Faut en être conscient. Peut-être qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Parce que c'est tellement un fantasme dans la tête des gens, surtout des jeunes, qu'en fait, on voit pas les mauvais côtés, quoi. On voit un peu ce qu'on voit bah, dans nos mangas et les animés. On voit les temples, on voit les sakuras, on voit les sushis, les ramen, on voit tout ça. Ça existe, hein, y a pas de souci. Mais y a aussi le monde du travail, y a la société. Et puis en tant qu'étranger, on n'est pas accepté forcément très très bien. Ou en tout cas, on a une place à se faire qui est difficile. Il faut apprendre la langue, il faut essayer de s'intégrer. Et même en faisant ça, on va avoir beaucoup de Japonais qui seront curieux et qui vont parler avec nous. Hein. Il y a vraiment pas de souci, ils sont super gentils, ils vont nous aider dans la rue. Vraiment, ils sont au top niveau service, le Japon, c'est incroyable. Mais ensuite, prendre la place d'un employé, faire sa vie, y habiter, etc., essayer de suivre les coutumes, c'est pas pareil en fait.
C'est pas
tout le monde qui va être ouvert là-dessus, qui vont accepter la chose, qui vont accepter qu'on, voilà, on essaye de s'intégrer dans leur petite ville, leur société, leur pays. Donc voilà, ça faut en être conscient, mais c'est très difficile vu de l'extérieur en fait, de vraiment visualiser ça. Faut être sur place pour le vivre et avoir cette opportunité peut-être d'y rester un petit peu plus longtemps que quelques semaines, quoi.
Ça t'a tellement enrichi que t'as voulu en faire profiter les autres.
Ouais.
En mettant des petites choses sur YouTube, sur Twitch.
Oui, oui, oui.
Partager.
Ouais. Ben, ça, c'est mon côté créatif, hein. C'est que, y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger, même pour un voyage, hein, qui vont faire un blog de photos. Alors je dis blog, ça fait boomeuse, hein, mais maintenant ça y est, c'est Instagram, TikTok, voilà, mais, blog, qu'est-ce que c'est? Donc moi quand je suis partie, c'était encore les blogs, et je me suis dit, est-ce que je fais ça? Naturellement, je pars un an, donc j'ai envie de partager avec mes proches, savoir qu'est-ce que je fais de mon quotidien, etc. Est-ce que je vais faire un blog photo? Et en fait, je me suis dit, mais non, mais moi, mon truc, c'est le dessin. Donc, au lieu de mettre des photos, ben, je vais faire des dessins. Et je vais mettre ça en scène, en fait. Je vais faire des petites BD, des petits strips. Donc, c'est comme ça qu'est né Nani Nani, le blog BD. Comme j'aime bien toucher à tout aussi, je suis allée un petit peu plus loin que le statique, c'est-à-dire que j'ai fait des animations, des vidéos. C'était un petit peu la mode aussi, tout le monde se lançait sur YouTube. Et quoi de mieux que de parler d'un sujet qu'on maîtrise ou qu'on a envie de partager. Moi, j'étais sur place, donc j'ai partagé mes voyages, mes week-ends, etc.
Alors là,
oui.
Devant nous, on a une BD, Les Pierres du Cauchemar.
Oui.
Il y a deux tomes.
Oui, pour l'instant.
Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment t'es arrivée sur cette aventure qui est assez incroyable, quoi?
Alors, comme je l'ai dit, j'avais fait de la BD avec les recettes de cuisine. Ensuite, j'ai participé à des collectifs, notamment Coco, avec les éditions Isekinicho. et disquettes aussi chez Dupuis. Mais c'est des collectifs, donc c'est une petite participation, c'est pas une histoire entière. J'ai pas eu à ce moment-là l'opportunité de retravailler sur une BD. Moi-même, j'avais pas forcément un projet en tête. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Et en fait, il y a quelques années, Gléna m'a contactée. Donc c'est très flatteur.
Ah bah oui.
On m'a contactée pour dessiner une BD, mais qui n'était pas celle-là. C'était une autre qui a jamais vu le jour, au final. Mais donc c'était un premier contact. Et au final, en plus, c'était une BD qui, l'histoire ne me plaisait pas plus que ça. Donc on était en pleine discussion, il n'y avait rien de sûr. Et à ce moment-là, il y a Dooms et Sora, les youtubeurs, qui ont ce projet de faire une BD, mais qui n'ont pas de dessinateur. Ah, et donc, ils sont chez Glénat, ils sont là avec leur projet, on cherche un dessinateur, et puis moi je suis là. Moi je suis dessinatrice, ça tombe bien, et puis je cherche un projet. Donc en fait, c'est le timing à ce moment-là qui a fait que on cherchait la même chose, quoi. Donc l'éditeur nous a rapprochés, on s'est parlé. Moi je les connaissais que de nom. Je regardais pas forcément leurs vidéos, je connaissais de nom. Et c'était important pour moi de savoir quel était le type de contenu qu'ils faisaient et leur personnalité aussi. Est-ce que ça allait marcher entre nous? Parce qu'une BD, c'est minimum un an de travail. Oui. Et en plus, c'est leur propre personnage. Donc, je les dessine. Et je vais être sûre que notre relation soit saine, quoi. Ou qu'en tout cas, ce qu'ils font m'intéresse un minimum. Parce que les dessiner pendant un an, si on ne s'entend pas ou que j'aime pas leur contenu, moi, je ne me vois pas faire ça. C'est super difficile. Donc, j'ai passé la nuit à regarder tout leur contenu YouTube. Je me suis dit, d'accord, c'est intéressant, je comprends que ça plaise. Je pense que je suis un peu plus vieille que la cible actuelle, mais je comprends complètement que ça plaise. C'est des personnalités, tous les deux, ils sont très attachants. Ça me paraît... j'aime bien le message, en fait, qui donne aux jeunes. C'est pas violent, c'est pas... C'est pas un peu du n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait un peu tout pour se faire voir, quoi. Et c'est pas ça non plus. Donc, j'aimais bien, en fait, la mentalité de ces deux personnes. Je me suis dit, pourquoi pas? Maintenant, il faut que je sache qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter aussi. Donc, on s'est appelés. On s'est bien entendu assez vite. Moi, je leur ai présenté aussi, parce que c'est dans les deux sens. Je leur présente mon travail. Je leur dis, voilà, je fais ça. J'ai plusieurs styles. Et eux, tout de suite, ils ont accroché sur les recettes du Nathalie Cookbook. Ils ont dit, on veut ça. Alors, ça m'a fait un peu bizarre, parce que je me suis dit, ça fait 10 ans quand même que j'ai fait ça. Mais bon, après, c'est vrai qu'eux, ils sont très manga. Ils ont fait le choix de faire une BD, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire que manga, c'est un certain format. C'est un format qui est plus petit, c'est noir et blanc.
Oui.
Et manga, c'est très dans la longueur. On peut se permettre d'être contemplatif. Enfin, c'est très très long. Alors que eux, ils sont partis sur une BD, donc c'est de la couleur, c'est un format A4. C'est moins de pages, ça veut dire que ça va plus vite aussi. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous a entre guillemets reproché. C'est-à-dire que notre public est habitué à lire des mangas. Et c'est, pour certains, c'était leur première bande dessinée, et donc ils ont trouvé que ça allait trop vite, par exemple. Mais en fait, c'est trop court et c'est trop rapide. Mmh. Mais en fait, c'est ça une BD. C'est plein d'ellipses, ça va vite, on n'a pas le temps. On a plein de choses à raconter aussi. Donc c'est ça. Et puis aussi, pour attendre le prochain tome, va falloir patienter, les amis, parce que ça met du temps. Moi, je suis toute seule à faire les dessins, les couleurs. Donc c'est le travail de plusieurs personnes, notamment les mangas, c'est ça, hein, c'est une équipe de plusieurs personnes et chacun a sa tâche. Et c'est pour ça que ça sort un peu plus vite. C'est pas du tout le même rythme de publication. Hein. Oui. Au Japon, c'est très spécial, hein, c'est tous les mois, ça sort dans un magazine d'abord, et après ça devient un manga. Donc la BD, c'est pas du tout pareil. Et ça, les lecteurs de manga ne le savent pas. Et donc il faut les éduquer là-dessus. Et quand ils le savent, il n'y a pas de souci. Hein. Ils disent ok, je vais attendre. Je vais attendre. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et puis il y a plein d'autres choses à regarder et à lire entre temps. Hein. Donc voilà. Mais c'est parti comme ça en fait. On a signé chez Glénat. On a fait ce premier tome qui nous a pris un an. On a eu un bon retour. Et donc naturellement, on a fait la suite. De toute façon, en fait, on avait pensé cette histoire en 5 tomes.
D'accord, voilà. C'est déjà...
Idéalement. Quand on sort un premier tome, on ne sait jamais, on ne signe pas pour les 5. on fait un premier, ensuite on regarde.
On attend.
Voilà, ça, c'est, je peux comprendre, c'est, du point de vue d'éditeur, c'est toujours un risque, en fait. Quand tu sors un titre,
oui,
tu sais
pas où ils vont.
Tu sais pas, et en plus, un produit d'influenceur, c'est quitte ou double. C'est-à-dire que c'est un peu la mode, tous les influenceurs veulent un peu leurs produits dérivés, mais ils y mettent pas forcément du temps ou du cœur, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une BD, mais j'ai pas envie de passer du temps dessus, donc je vais déléguer ça à d'autres gens et je vais mettre mon nom dessus.
Ouais. Et c'est pas pareil.
Voilà. Donc il y en a qui font ça, mais par contre, eux, ça leur tenait vraiment à cœur d'écrire l'histoire. C'est pour ça que ça prend du temps aussi, parce que c'est pas leur métier à la base. Parce qu'écrire des vidéos ou une BD ou un roman, ça n'a rien à voir.
C'est pas la même. Hein.
C'est pas le même rythme. La BD, c'est des cases, ça se découpe. Il y a une page gauche, une page droite. Et tout ça, bah, moi, j'interviens là-dessus, ou moi, je les guide aussi. C'est-à-dire que eux, sur le papier, c'est très bien, mais en fait, en pratique, ça va pas se passer exactement comme ouais. ça. Donc moi, je leur propose aussi des alternatives. Je leur dis, voilà, je vous propose ça, on raccourcit. Sinon, il faut que ça tienne dans cette page, parce que sinon, si ça dépasse, ça marche plus. Enfin, donc, et franchement, ils me laissent beaucoup de liberté là-dessus, ils me font confiance. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un changement à faire, on en discute tous les trois. Donc, pour ça, ça s'est très très bien passé. Et donc voilà, donc tome 2 qui est sorti il y a quelques semaines et qui a un très bon retour aussi. Et on est très contents. Et la question maintenant, c'est tome 3, comment ça se passe?
On verra.
Est-ce que ça sort bientôt? Moi, je suis déjà contente que le 2 y sorte, parce que ça prend tellement de temps qu'une fois que ça sort, laissez-nous un petit peu profiter de ces moments-là. Ouais, moi je me repose un petit peu. Et puis on profite, en fait, parce que la BD,
savourer le deuxième, quoi.
C'est ça, parce que une BD, c'est très solitaire. Moi, je suis toute seule dans ma chambre, et je peux pas montrer ce que je fais. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? On ne sait pas. On n'a plus de recul. Il y a des moments qui sont difficiles. On n'en peut plus. On en a marre. On voit pas le bout. Et il y a d'autres moments bien quand même. Hein, mais un an, c'est très long. C'est très très long comme ça. Donc une fois que c'est terminé, il y a la partie fun qui commence. Bah, c'est ça, c'est les dédicaces.
Bah là, les conventions.
C'est exactement, les dédicaces, la rencontre avec son public, les retours. Nous donner un avis, un commentaire. On a des petits cadeaux aussi parfois, des petits dessins. Mais ça fait super plaisir, quoi. Ça fait super plaisir. Même poser des questions. Poser des questions, alors, est-ce que vous avez fait exprès, là? Ah, mais j'ai vu, vous avez mis tel personnage caché dans le fond, parce qu'on fait des petits clins d'œil comme ça aussi.
Oui, ils cherchent, quoi.
Ouais, et moi, ça me fait super plaisir, parce que moi, je mets beaucoup de temps dans les détails, etc., et à cacher des choses, ça, c'est vraiment un truc de...
Tu t'amuses, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des choses que personne ne trouvera jamais, parce que c'est des trucs privés, on va dire. Mais il y a des clins d'œil aussi à la communauté.
Attention, tu vas lancer des défis, là. Les gens, ils vont prendre la BD, vont rentrer chez eux.
Mais
ils vont
bien
faire...
sûr.
Alors, qu'est-ce qui pourrait
bien
être privé?
Et notamment le tome 1 qui tourne autour des réseaux sociaux, on a caché d'autres youtubeurs. En caméo.
D'accord.
Sauf qu'à aucun moment on les pointe du doigt ou ils parlent même pas, c'est juste dans le fond, on les met là et on observe, est-ce que les gens vont les trouver ou pas. Il y en a, ils les trouvent tout de suite, il y en a, ils les trouvent bien plus tard. Donc ça, c'est très fun aussi.
C'est top, en fait. C'est une belle aventure.
C'est une belle aventure, et si tout se passe bien, il y en a 5 comme ça. Parce qu'à chaque fois, on croise,
les doigts
des deux mains. On croise les doigts, pour l'instant, c'est bien parti. Après chaque tome qui recommence, c'est tellement de travail qu'il y a des moments un peu sombres. On se dit j'en peux plus, j'arrête. Mais en fait, c'est pas un métier de passion pour rien. C'est que ça, c'est comme tous les métiers. Il y a des jours sans. Où je peux tomber sur une page qui est difficile. Voilà, ça arrive.
Ça arrive.
On n'est pas très motivé. Et puis après, on la passe. Et puis il y a une page qui est un peu plus sympa après. Et là, par contre, c'est du plaisir. Donc voilà, il y a un petit peu, il y a plein de sentiments comme ça qui sont mélangés.
Bon, où est-ce qu'ils peuvent les trouver,
Bah partout.
Les deux tomes.
Ouais, on peut les trouver dans toutes les petites librairies. Ça, c'est important de faire travailler les commerçants. Chez votre libraire, chez les plus grands aussi, les Cultura, Fnac, même des grandes surfaces. On peut la trouver en ligne sur Amazon.
Et dans les conventions où tu es?
Ah bah oui,
c'est ça.
Oui. Mais ça, c'est encore mieux, parce que comme ça, c'est dédicacé.
Et
il y a un dessin.
Un petit dessin
dedans, bien sûr. Et donc ça, c'est cool, parce que non seulement ça fait un bon souvenir, mais moi aussi, je suis consommatrice de dédicaces, je sais ce que c'est d'être de l'autre côté. En fait, c'est surtout le partage. C'est le moment que tu partages avec l'auteur à ce moment-là qui est le plus marquant. Et puis donc voilà, si les gens ils ont des questions ou ils veulent me dire quelque chose, c'est le moment. Et je leur fais un petit dessin, ils repartent avec.
Bah, merci beaucoup en tout cas de...
merci.
Pour ce moment.
Merci
ces
à toi,
explications,
Vanessa.
Et, que du bonheur.
Merci, merci beaucoup.
Plus qu'une interview, je dirais que c'est vraiment une conversation incroyable qu'on a vécue, des moments de confidence. On pouvait parler. Et c'est vrai que c'était vraiment très fort, très instructif. Comme je l'ai dit, hein, que du bonheur. Que du bonheur ce TGS. Merci encore à Hype Media, à Michel d'Hype Media qui nous a fait confiance. Et on continuera tout au long de cette semaine à vous dérouler les interviews. Ne vous en faites pas. C'était Chaud Devant, TGS Spring Break avec Dreamy. Merci encore à Sophie, alias Dreamy, de nous avoir accordé cette interview. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time.